vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, oui, vous êtes bien sur Radio B90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de février 2026. Il vous présentera de grands auteurs où l'amour vrai est plus fort que tout. Avec Alexandre Jardin, Lisa Garner, Michael Connelly, Patrice Guin, Luc Lesio et Lucinda Riley. Peut-être avec elles, on verra en fonction du temps. Le premier roman, donc, sera La femme qui inventa l'amour, donc, de Alexandre Jardin, qui vient de paraître chez Michel Lafon. Il y aura ensuite un deuxième roman, 12 ans après, de Lisa de la Grande, Lisa Garner, chez Albin Michel, paru chez Albin Michel. Et puis « Sans âme ni conscience », un très beau titre que vous comprendrez en lisant ce roman, « Sans âme ni conscience » de Michael Connelly, qui vient de paraître chez Kalman Levy. Et puis « Seules les rivières » de Patrice Guin, paru chez Albin Michel, un nouveau roman incisif de Patrice Guin. Il y aura une pause musicale où on écoutera Gauthier Capuçon, le grand Gauthier Capuçon, nous interpréter la première mélodie du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Et puis il y aura deux autres romans, Trois Mexiques, un panthéon incontournable de Luc Lesio, qui vient de paraître chez Gallimard, JMJ Luc Lesio. Et puis la dernière chanson d'amour, puisqu'on parle d'amour, une dernière chanson d'amour de Lucinda Riley aux éditions Charleston, un roman inédit. Alors je commence donc par le premier, La femme qui inventa l'amour, de Alexandre Jardin. Pourquoi aime-t-on à la folie ? Eh bien, parce que l'amour fut inventé. Nos émotions les plus intimes, celles qui sauvent de la tiédeur de la vie, ne sont pas naturelles. On pourrait le croire aujourd'hui. Ce sont des inventions surpuissantes qui façonnent notre cœur et rêvent qui rêvent en nous. Et si ce livre... Je ne pourrais d'ailleurs pas vous dévoiler toutes les mesures que prendra la princesse Xi, qui est le personnage central de ce grand roman, qui prendra des mesures pour combattre les usages de ce temps qui ne voulait pas d'amour, qui voilà. Mais alors, Alexandre Jardin, pour relater cette grande aventure, s'appuie sur des archives. Les archives impériales des Shang, retrouvées dans une partie secrète cachée du tombeau de l'empereur Shang Dixinji, qui vécut de 1290 à 1237 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on a retrouvé, Alexandre Jardin peut s'en servir pour imaginer ce grand roman, des documents peints sur des étoles de soie, peu abîmés ou presque, et tous concernent les mœurs de Xining, sous le règne de la reine Xi. Xining, c'est un endroit, une région, qui peut ressembler au Tibet aujourd'hui, mais qui faisait partie, qui, qui était indépendant, mais qui faisait quand même partie de la grande Chine de l'époque. Et que cet empereur, Shang Dixinji, a été en vérité fasciné par cette nouvelle civilisation du Qinghai insoumis, c'est-à-dire de cet amour insoumis, c'est-à-dire de l'amour fou, qui a été inventé et exhibé à cette époque lointaine par celle qui est devenue la reine Xi. Voilà pourquoi Alexandre Jardin, au sommet de son art, célèbre dans ce roman la princesse Xi, au départ c'est une princesse Xi, qui se meurt dans un monde sans poésie. Voilà. La poésie, elle aussi, n'existait pas, puisque les usages voulaient que tout le monde vive la même chose, les mêmes vêtements, les mêmes... Rien ne devait ressortir de la tiédeur de la vie. Donc, cette princesse Xi se meurt dans un monde sans poésie. Et sa rencontre avec Shen, qui est un grand funambule, rebelle et rieur, qui sait se servir d'une épée aussi, c'est un soldat, et qui fait naître cette rencontre entre Xi et Shen, fait naître en elle l'étincelle d'un sentiment nouveau. Voilà, une chose qui n'existait pas encore. Un amour absolu et contagieux, assez puissant pour défier l'ordre établi, en particulier établi par l'empereur de Chine, qui voulait que tout soit réglé, ordonné, qu'il ne devait pas y avoir de personne indépendante, imaginant, rêvant autre chose. Même les enfants seront, on va leur briser la possibilité de poésie ou de rêve. Alors Xi découvre que la poésie est un langage. Ne soyez jamais, dit-elle, inférieur à la personne que vous êtes. Voilà, on devient une personne raisonnable. Ce que vous devenez est plus important que ce que vous avez été. Il n'existe aucune excuse pour ne pas être soi, alors que c'était le collectif qui était imposé. La princesse sent simplement qu'un rêve étrange bouge en elle, se sert d'elle et de Sheng pour agrandir la vie. Il s'agit bien de ça, de cette invention de l'amour, d'agrandir la vie, d'avoir des sentiments, un éveil. C'est ainsi qu'elle fait soudain connaissance avec l'éveil, avec un grand E, sans avoir la moindre idée de l'énergie qui s'empare d'elle. Que veut d'elle la vie? Eh bien, elle veut qu'elle devienne reine Xi, à la mort du roi, son père, qui la prend pour folle parce qu'elle va lui en parler de tout ce qu'elle ressent en elle et qu'elle veut témoigner, qu'elle veut faire vivre à toute la communauté, eh bien, le père la prend pour folle. Mais il ne la fera pas mourir, hein, voilà. Elle inventera aussi, donc... une manière de se défendre parce que elle va avoir beaucoup d'ennemis. Donc elle va inventer ce qui existait bien à cette époque lointaine, un kung-fu défensif permettant de se placer au centre d'une cage défensive alors que chacun la voit déjà morte parce que n'étant pas encore mariée, Elle le sera par la suite avec Scheng, secrètement avec Scheng. Donc elle devient réellement reine à part entière. Mais comme étant non mariée, normalement, lorsque le roi va mourir, eh bien, toutes les concubines et puis les enfants, la fille non mariée, devraient mourir par le feu comme le roi. Alors, grâce à cette manière, ce kung-fu défensif, elle va pouvoir triompher de ses adversaires et même aller jusqu'en Chine affronter l'empereur de l'époque pour faire en sorte que... Alors, je ne peux donc, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tout vous dévoiler parce que ce serait... affaiblir la portée de ce roman de la femme qui inventait l'amour. Mais sachez seulement que cet amour deviendra contagieux parce que il y aura vis-à-vis la nuit, la princesse Xi et le prince Cheng se rencontrent dans le palais. Ils sont au même étage, mais ont chacun une chambre à part. Et donc, les échanges amoureux propagés la nuit à Xining, donc dans le palais, le Tibet actuel. Donc, des sons de clochettes différentes de l'une ou de l'autre. Et quand ils vont l'un et l'autre, eh bien, toute la population est à l'écoute. Donc, c'est une éducation qui se propage partout dans la population. Une éducation populaire s'approfondit la nuit, l'éveil à l'amour, voilà. Chacun espère désormais le baiser qui les consumera, le moment d'éternité qui les rassemblera. Cette révolution intime exalte, tous sont pour la première fois rêveurs, sensibilisés à la joie du jeu amoureux. La Chine conjugale ne connaissait pas cette ferveur. Elle va la découvrir, mais malheureusement, enfin je ne vous dévoile pas, mais malheureusement, l'empereur voudra mettre fin à cette folie de l'amour. Alors je passe à un deuxième roman. Là aussi... assez ténébreux. Non, le premier, la femme qui entre à la main, se termine mal, si on veut, mais ça s'est propagé dans le monde entier. Dans ce roman, 12 ans après, de Lisa Gardner, qui vient de paraître chez Michel Lafon, qui est un grand roman de 455 pages, 22,90 euros. Oui, je n'ai pas dit que pour La femme qui inventa l'amour, il fait 315 pages, 20 euros. Alors, 12 ans après, Elisa Gardner, prenant une année sabbatique en 2021-2023, j'ai pu voyager et rencontrer beaucoup de gens remarquables, dit-elle, et reconnaissante à l'association The Nature Conservancy, voilà, qui lui a permis de séjourner dans la station de recherche de Palmyra. Palmyra est un atoll époustouflant à une heure de vol d'Hawaï, où il se pouvait bien, dit-elle, que Pomaïke, qu'elle a imaginé dans ce nouveau roman, y ressemble beaucoup, fortement, à Palmyra, mais qu'elle a baptisé Pomaïke et qu'elle met en scène dans ce roman 12 ans après. Elle reprend aussi son personnage féminin, Frankie Elkin, qui gagne en puissance malgré ses blessures anciennes. Pas tout à fait cicatrisé que l'on découvre à nouveau dans ce nouveau roman de Lisa Gardner. Frankie Elkin s'est juré de retrouver les personnes disparues et oubliées de tous. Elle a connu quelques succès retentissants, même si ce n'est ni une policière, ni une détective privée. Mais les gens qu'elle rencontre dans cette mission, parce que pour elle, c'est une mission, l'écoutent et lui permettent d'avancer dans son enquête. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Kyle Pearson, une condamnée à mort, donc par l'intermédiaire, la contacte par l'intermédiaire de son avocate, Victoria Twanov, de rechercher sa sœur, Leilani. Et elle lui donne 3 semaines avant de la trouver, avant qu'elle ne soit exécutée. Kyle Pearson est d'une beauté renversante, ce qui témoigne de ses origines hawaïennes. Mais c'est aussi, elle est surnommée une bouchère à la beauté incendiaire, parce que aussi c'est un animal qui tue ses proies sans état d'âme, même si elle est âgée de 32 ans. Il y a 18 inconnus qu'elle va dépecer, des hommes, des jeunes hommes qu'elle a pu séduire ou qui ont été séduites. Voilà, et puis, soi-disant qu'il voulait disparaître de sa vie et qu'elle ne l'acceptait pas, donc elle les a dépecés. Donc c'est vraiment un être terrifiant que met en scène dans ce nouveau livre, 12 ans après, Lisa Garner. Voilà, on n'est pas habitué à de tels personnages. Habitué au défi, Frankie accepte cette mission, un suspense qui nous conduit 12 ans plus tôt. Leilani était alors âgée de 5 ans et elle disparaissait à Hawaï. Or, on vient de retrouver sa trace sur un atoll à 1 heure de vol d'Honolulu, où un ancien petit ami de Kyle, aujourd'hui mania de la tech, qui s'appelle McManus, qui projette de construire un éco-lodge de luxe si elle veut découvrir la vérité. Donc, et sauver la vie de la jeune fille, Frankie doit infiltrer un camp de base coupé du monde. Alors il y aura de nombreux obstacles, avec l'hostilité de quelques individus, d'innombrables et de dangereux secrets vont se révéler, aucun moyen d'appeler à l'aide, et une tempête tropicale, voilà, qui s'annonce, qui sera terrible, qui, avec beaucoup de neige et de vent, conduisant ce roman terrible, vers un chaos de cette aventure singulière. Un chaos que je ne peux vous décrire parce que ce serait dommage, mais je vous assure que vous allez être surpris profondément par ce final. C'est à lire absolument ce nouveau roman, 12 ans après, de Lisa Garner, qui vient de paraître chez Albin Michel. Je vous parle maintenant d'un nouveau grand livre aussi, Sans âme ni conscience, du grand Michael Connelly, qui vient de paraître chez Kalman Levy. 435 pages quand même, hein, et 22,90 €. Il met en scène Michael Connelly, Mickey Halley. Il a bien sûr d'un autre personnage, mais qui est plus ou moins à la retraite, mais Mickey Halley, le célèbre avocat à Lincoln, se lance dans une affaire et une action contre une entreprise de la tech dont l'intelligence artificielle est accusée. Un procès hors norme. L'intelligence artificielle est accusée d'avoir encouragé un adolescent à tuer sa petite amie. Et au cours de son enquête, Mickey Halley croise la route de Jack McEvoy. Je le cite parce que c'est un journaliste qui assiste aux audiences afin d'écrire un livre sur ce sujet. Le sujet. Et qui sera très efficace dans le déroulement de cette affaire, de ce procès, car il y a bien un procès avec la juge Rulin, un procès intitulé Randolph contre Tidal Vive, qui est la société de la tech qui favorise certaines choses. Préjudiciable. Alors qu'il dit procès, il dit qu'il y aura le choix des membres du jury, voilà, il y aura un jury. La constitution aussi des témoins, chercher des témoins pour attaquer cette entreprise néfaste à certains moments. Donc des témoins à choisir, difficile et déterminant. Alors l'affaire, c'est Rebecca Randolph, qui est âgée de 16 ans, en deuxième année de lycée, qui devait passer en première année, est abattue par un garçon appelé Aaron Colton, qui ensuite voulait, d'après l'inspecteur qui enquête, Douglas Clark, voulait se donner la mort pour vivre dans un monde surnaturel, éternel, comme le disait parfois Shakespeare dans ses pièces de théâtre. Alors donc, il y a un premier rendez-vous établi entre Brenda Randolph, qui est la mère de Rebecca Randolph, et Bruce et Trisha Colton, les parents de Aaron Colton, qui a assassiné la jeune fille. Alors il y aura des avocats, les deux avocats de Tidal Vive, les frères maçons, qui ont tendance à chercher un compromis pour éviter un procès hors norme, parce que ça ne s'est jamais fait. Alors ce roman se base sur une phrase terrible, une citation que Connolly cite deux fois dans ce roman. Nous sommes engagés dans une course contre la montre afin de protéger les enfants de notre pays des dangers de l'intelligence artificielle. Des brèches se sont ouvertes dans les remparts de la ville de Los Angeles. L'heure est venue d'agir. Et ça, c'est le National Association of Attorneys General qui a fait cette citation le 16 septembre 2023. Donc, c'est pas très vieux. Alors, voilà. Donc, il y a une évolution qui se fait. Je dis que Mickey allait être aidé par Jack McEvoy et ils vont trouver un témoin, Naomi Kitchen, laëticienne, qui a été renvoyée par Tidal Vive comme un témoin précieux, mais qu'il faut convaincre de plaider. Parce que si elle a été renvoyée par l'entreprise, c'est qu'elle était, c'était une lanceuse d'alerte qui a tenté de révéler l'affaire avant qu'il y ait ce crime. Parce que cette entreprise de Calir qui agit en Californie, eh bien, cette entreprise voulait pervertir la jeunesse de l'époque en leur faisant faire des choses contre nature. Voilà. Alors, ils vont mettre la main sur ce témoin, mais essayer de la faire participer comme témoin dans ce procès. Mais il y a des pressions qui sont faites sur elle et sur sa fille, et donc elle doit se cacher. Mais ils vont parvenir à quand même, parce que il y a tellement d'argent dans cette, des millions de dollars sont en jeu, et le géant de l'IA auquel aller s'attaque ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts. Il y aura même deux, vous découvrirez dans ce grand roman, deux face-à-face en vain. Le maître du policier américain, Michael Connelly, livre un roman captivant d'une actualité brûlante, voilà, sur les zones d'ombre et les menaces de l'IA. Voilà pourquoi il faut le lire absolument. Mais il y aura, je dois ajouter, dans ce livre, dans ce grand roman, il y a deux affaires qui s'en mêlent. Mais sachez que Brenda Randolph va gagner, en quelque sorte, ce procès à la mémoire de sa fille, et qu'elle va pouvoir créer une fondation. Voilà. Mais comme dit Connelly, sans âme ni conscience, il y a... Connelly songe à une citation pour conclure ce roman haut en couleur. Un jour, c'est toi qui manges, l'ours. Un autre, c'est lui qui te mange parfois. Tout cela se produit dans la même journée, parfois à la même heure. Et si Mickey Halley et toute son équipe gagnent dans la première affaire, et que Brenda, donc comme je l'ai dit, pourra créer une fondation à la mémoire de sa fille, le père de Cassandra mourra à l'hôpital parce que Mickey Halley avait une ancienne affaire qu'il n'a pas su défendre, et Cassandra, la fille, vient donc avec son fauteuil roulant, montre qu'elle avait une maladie dégénérative mal connue à cette époque, qui fait que, 20 ans plus tôt, qui fait que ses os se cassaient sans l'intervention néfaste de son père adoré, qui est malade, et elle voudrait que Mickey Halley le fasse sortir de prison, qu'il puisse mourir à la maison. Malheureusement, il sera trop tard. Alors Connelly, donc, songe à cette citation, parce que s'il a pu gagner pour la première affaire, qui est la plus importante, bien sûr, qui donne le titre à ce roman, « Sans âme ni conscience », qu'est l'intelligence artificielle, eh bien, il l'a malheureusement loupé dans le deuxième. Il n'a pas pu faire sortir David Francis Shaw de prison avant qu'il ne meure à la prison de la prison, à l'hôpital de la prison. Voilà. Donc, je passe maintenant à un troisième livre, « Seules les rivières » de Patrice Higuin, qui vient de paraître chez Albin Michel, qui fait 264 pages, 20,90 euros. Ce texte, « Seules les rivières » de Patrice Higuin, est un roman terrible, car il met en scène une jeune fille qui s'appelle Jess, de 16 ans, mal aimée de sa mère, qui doit fuir un foyer toxique. C'est donc tout le contraire de l'amour. De plus, elle est trahie par Jordan, son soi-disant amoureux, qui lui tend un piège dans lequel elle sera livrée aux pires violences. Vous le découvrirez, je ne peux pas les décrire, mais les pires violences. Rentrée chez elle, elle devra quitter la maison, rejetée par sa mère, quitter Paris par l'autoroute, désespérée à la recherche d'un ailleurs, affronter le danger de la violence. Il y a une violence tapie en elle qu'elle va découvrir et que vous découvrirez. Et puis il y a une violence à l'extérieur. Se heurter à la précarité des étapes qui vont se dresser devant elle. Mais elle va trouver la force de vivre dans la puissance des paysages qui vont égayer sa longue route. Elle découvrira aussi, vous le verrez, des livres comme « La route de Kerouac ». Et avec des rencontres inattendues, mais semble-t-il salutaires. Alors la première, c'est une rencontre avec Nina et son chien Ney, qui vont la conduire en Ardèche, oui, une région que l'on connaît, une route superbe, et s'arrêter au bord de cette rivière, qui en a vu d'autres et sera de consoler, voilà. Malheureusement, son ex-Jordan et avec son copain Driss ont retrouvé sa trace et veulent l'emmener. C'est un dealer important qui est d'ailleurs poursuivi par la gendarmerie. Et elle devra, elle, s'en débarrasser avec violence, que je ne vous décris pas, vous découvrirez. Et la gendarmerie donc sera là également, j'ai dit, pour le dealer, mais elle va essayer de l'interroger, de savoir ce qu'elle a pu faire. Alors elle devra partir plus loin, dans les Cévennes, dans le Gard, et puis encore plus loin, vers le Mercantour, les montagnes du Mercantour. Et elle devra affronter des tempêtes, des vraies tempêtes, avec du vent et de la neige. Alors le seul beau moment de ce roman, c'est sa rencontre avec Alex. Jess va donc rencontrer Alex dans les gorges du Verdon, une belle région où il faisait de l'escalade avec des amis, de cette relation amoureuse, parce qu'il y aura une vraie relation amoureuse entre Jess et Alex, naîtra Lily, sa fille, qui ne parle pas beaucoup au départ, qui est un peu renfermée. On découvre qu'elle est autiste, mais qui, grâce un peu plus loin dans le roman, par la nounou qui va s'en occuper, elle va découvrir un piano, et ce piano, elle pourra en jouer et sortir de sa solitude et s'exprimer judicieusement. Voilà, vous. Donc, il y a quand même de beaux passages. Mais dans d'autres rencontres, il y a du bien et du mauvais sournois. Donc, alors qu'elle songe à passer en Italie, la gendarmerie la retrouvera et lui fera certaines choses. Comme si un sort funeste s'acharnait contre elle. Mais l'espoir vint en plus d'Alex et de Lily, elle découvrit l'art des ruches et du miel, ce qui deviendra son moyen de vivre et de survivre. À 18 ans, elle deviendra enfin indépendante, elle pourra gagner sa liberté. « J'ai marché, dit-elle, dans la froidure de l'aube. » Pendant une bonne heure, croiser une cabane forestière où j'ai pu me réfugier 3 jours et 3 nuits. Puis, marchant, le paysage s'est ouvert, le soleil est passé au-dessus des sommets, étirant une ombre filiforme à mon côté. Oui, seules les rivières de Patrice Guin, Albin Michel, la langue sobre et juste de Patrice Guin restitue l'errance de cette jeune femme en lutte pour sa liberté au fil d'un roman poignant. Confrontée à la nature, geste nourri de l'espace infini, rempart à la brutalité du monde. Voilà, et on peut maintenant écouter la belle musique de Camille Saint-Saëns. Voilà, n'est-ce pas que c'est très beau, cette musique de Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des animaux, interprété par Gauthier Capuçon. Alors, je parle maintenant de livres un peu particuliers. Le premier, c'est Trois Mexiques au singulier, Trois Mexiques, de J.M.J. Le Clésio. Peut-être qu'il s'est moins gros, il fait 132 pages, mais c'est dense, très dense, par son écriture. 18,50 euros, qui vient de paraître chez Gallimard. Dans ce récit lumineux, parce que c'est un récit lumineux, Le Clésio se penche sur trois figures mexicaines qui font partie de son panthéon personnel, dont la poétesse Sœur Juana Inés de la Cruz, qui vécut de 1651 à 1695. Je m'y attarderai. Parce que c'est une femme, voilà, qui a été poétesse, mais qui est rentrée aussi en religion. C'est une femme exceptionnelle. Et ce qui lui importe, c'est le chemin du labyrinthe. On parle bien d'un labyrinthe. La vérité que le Dédale, vous savez l'histoire, cachée à Thésée, et que seul le fil d'Ariane pouvait révéler. Puisque l'amour était au bout, voilà, on parle encore d'amour. Un génie méconnu et féministe avant l'heure, qui vécut donc au XVIIe siècle. Autre figure mexicaine, citée par Leclésio dans ce livre majeur, l'écrivain Juan Rulfo, qui vécut de 1917 à 1986. Mythique auteur du roman Pedro Páramo et d'un seul recueil de nouvelles, mais incontournable, qui parle, véritable inventeur du réalisme magique, mais qui parle aussi donc de la révolution mexicaine. Et Louise González y González, c'est la troisième figure citée par Leclésio, née en 1925, mort en 2003, historien de son village perché natal, ce qui est la première expression de ce qui deviendra plus tard la micro-histoire. Cela se traduit par un attachement à leur mexicanité, à la terre instinctive et leur recherche d'authenticité dans l'écriture. Voilà pourquoi je dis que c'est un très très grand roman de Leclésio. Et c'est grâce aux femmes, à ces femmes, on parle encore des femmes, à ces filles qui ont maintenu les règles essentielles du savoir survivre en donnant aux hommes et à ces deux écrivains leur nourriture, leur bien-être, leur amour. Voilà. Alors j'ai dit que je revenais sur Sœur Juana Inés de la Cruz, qui est né au milieu de nulle part, dans le village de Népantla, au bord du lac de Texcoco, près de Mexico. Sa mère est Isabelle Ramirez de Santillana, une créole, c'est-à-dire une espagnole née au pays, mais cela implique possiblement le métissage, puisque la plupart des hommes immigrants en Nouvelle-Espagne au XVIe et au XVIIe siècle venaient sans femme. Sa famille semble avoir appartenu à la classe possédante, bénéficiant des revenus d'une hacienda. Le père de Juana, Pedro Manuel de Asbage, soldat d'origine basque, recensé comme capitaine, c'est-à-dire conquérant, Pedro de Asbage ne s'est pas marié à Isabelle Ramirez et a abandonné sa famille. Et les enfants dits naturels ne subsistent pas le même opprobre qu'en Espagne. Voilà. Donc Juana vivra une enfance studieuse et solitaire. Elle connaît tous les risques auxquels sont exposées les femmes d'origine rurale, au temps du vice-royaume de la Nouvelle-Espagne, avec la discrimination raciale, l'absence des femmes, reléguée à une vie de subalterne, dans le rôle d'épouse, de mère, dans une situation d'une domestique, plutôt que d'une esclave. Vivant entre les montagnes, un lieu appelé un lieu entre deux, donc dans le village au départ de Népantla, mais ensuite elle ira, et ça sera beaucoup mieux, dans la ville d'Amekameka. Amekameka. C'est là qu'elle apprend à lire et à écrire, dans les livres de son grand-père, sans doute avec l'aide des religieuses du couvent. Elle montre un goût marqué par l'étude, en particulier des œuvres littéraires. Ovid, Horace, Virgile, donc c'est vraiment des grandes œuvres. Et puis des œuvres scientifiques, celles de Platon, d'Aristote, de Lucrèce, en plus de la Bible. Et c'est de ce temps-là que naît la légende de Ruana, Ruana Inès de la Cruz. Elle a pris le nom comme Saint Jean de la Croix, parce que, apprenant à lire le latin dès l'enfance, et à 16 ans, elle part vivre chez sa tante Ramirez à la capitale. Il y avait un passage intéressant, là, une année formidable, s'habillant en garçon pour être admise à l'école. Et c'est ensuite qu'elle choisira d'entrer en religion en 1668, âgée de 17 ans. Tout d'abord au couvent des Carmélites, à Mexico, mais découragée par la règle stricte, elle demande à rejoindre les nonnes hiéronymites. Les nonnes hiéronymites, une vie moins sévère au couvent de San Geronimo y Santa Pola, plus libérale et favorisant l'étude et la traduction, selon son père fondateur, qui s'appelle Saint Jérôme, qui est Saint Jérôme, mort en Palestine au 5e siècle. Elle y restera jusqu'à sa mort, mais auparavant, avec la protection de la vice-reine Léonore de Caretto, marquise de Mancera, elle intégrera l'aristocratie. Où la réputation de Ruana, cet extraordinaire talent qu'elle montre à imiter les prouesses de la poésie baroque dans le style de Quevedo, de Congora ou de Calderón de la Barca. Voilà. Et il y a une analyse passionnante de cet art faite par Leclésio. Alors je peux bien sûr pas tout vous dire, mais sachez tout de même, dans cette poésie, sa décision, donc ça je reviendrai après, la sagesse, donc sachez que analyse la poésie de Ruana Inès. À vous de la découvrir donc dans ce livre, en lisant son texte et ses énigmes citées. Sachez qu'il y a un double message, à la fois religieuse d'une part, et la joie de la composition littéraire d'autre part. Ruana compose des quatrains, dont la musique, des rimes, le rythme et le choix du vocabulaire n'appartiennent qu'à elle. Ultime jubilation sans doute, afin de tenir tête aux condamnations de sa hiérarchie. parce que elle sera condamnée par la hiérarchie d'avoir fait de la poésie et des pièces de théâtre, même si jeune. Alors voilà trois exemples cités par Le Clézio, mais il y en a d'autres que vous découvrirez donc dans le livre. Trois exemples de cette poésie traduite en français qu'elle donne en espagnol, mais moi je le traduis en français. Enfin, Le Clézio le traduit en français. Premier exemple. Quelle est la sirène atroce qui, de ses 12 accords, donne la paix par ses paroles, mais dans sa voix cache la mort, avec un point d'interrogation. La deuxième strophe, quelle serait cette douleur d'un effet si inégal, puisqu'elle est un très grand mal, qui guérit d'un mal plus grand encore. Point d'interrogation aussi. Et troisième strophe, quel est cet homicide pieuse et sans gratitude qui toujours lorsqu'elle vit tue et meurt quand elle donne la vie. Point d'interrogation. Ce texte manuscrit remis par Maria Luisa de la Laguna, son amie qui était l'amie de Juan, eh bien, lorsqu'elle est retournée en Espagne, avait dans ses affaires ce texte manuscrit comme un dernier message au phénix de l'Amérique, parce que Juana Inés est le phénix de l'Amérique à l'heure de sa mort. Alors je dois maintenant, donc pourquoi a-t-elle choisi d'entrer chez les religieuses, une décision d'entrer dans les ans qui sera définitive, sans doute à cause de la sagesse et puis de la hiérarchie qui faisait pression contre elle, pour qu'elle se taise, qu'elle aille dans le silence, mais aussi parce que les filles d'origine modeste étaient confrontées au mi-temps du XVIIe siècle, quand elles ne disposaient d'aucune ressource pour vivre, pour continuer à pratiquer leur art et leur passion pour l'intellect. Voilà. Donc c'est sans doute la sagesse et le silence de s'occuper avec amour des autres moniales plus jeunes qu'elle. Et puis il y aura la maladie qui va faire qu'il va l'emporter. Avait aussi ce livre précieux. Donc découvrir les trois autres écrivains, je vous ai parlé, des trois autres écrivains. Oui. Donc il y avait Juan Rulfo, l'écrivain né. Il est certainement l'un des plus grands vrais écrivains du XXe siècle, celui qui a changé quelque chose à la littérature, inventé une voie nouvelle, loin de toute école, de toute idée reçue, celui qui a refondé l'imaginaire en littérature, non pas avec théorie ou dictat, mais plutôt avec un mélange d'insolence et de nonchalance, sans souci pour les règles établies, sans respect excessif des modes, ainsi en liberté, Le Clézio dit, en apesanteur, comme un jeu, comme un jeté de pierre, comme un envol de mots. Et ce personnage s'appelle Juan Rulfo. À vous de lire à la suite de cette référence. Juan Rulfo a été aussi un photographe, fait de nombreuses et belles photos, en particulier de son épouse, de Clara Aparicio. Voilà. Et puis donc, dans la troisième figure mexicaine que présente Le Clézio, il y a Don Luis, l'homme de la terre. Il y a un orage à San José de Gracia, c'est le pays des chevaux, non pas seulement des hommes, Mais comme partout dans cette région du Mexique traditionnelle, l'homme, au détour du chemin, se transforme en centaure. Voilà. Donc il y a un orage, elle a fait cendrue en nuevo. L'univers, que je vous dise que l'univers de Don Louise est ici même, comme si tout ce qui a produit l'histoire humaine était passé nécessairement par cette route étroite jusqu'au haut plateau, jusqu'à une île, oui, ça forme comme une île, le village suspendu entre le Michoacán, le Michoacán, et le Jalisco. C'est ici, à San Juan Nuevo, là où le volcan s'est arrêté de couler au pied du Christ, il y a un demi-siècle. À San Juan, les rêves sont infinis comme les pas des danseurs, parce qu'on danse, on aime bien danser, mais marcheurs, on marche. Marcheurs, il n'y a pas de chemin. C'est toi qui traces le chemin en marchant. La vérité, c'est ce qu'on voit. L'historien est tenu à la vérité, puisque le politique, dit Louis Gonzalez, est obligé de pratiquer habituellement le mensonge. Donc je vous laisse la suite de ce roman « Trois Mexiques » de Leclésio qui vient de paraître chez Gallimard. J'ai un dernier livre que j'avais prévu de vous présenter, La dernière chanson d'amour de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Une grande œuvre inédite de Lucinda Riley, romancière irlandaise morte en 2021. Sa série Les Sept Sœurs, qui suit le destin de sœur adoptée, est devenu un phénomène mondial, créant un genre littéraire à part entière. Et certains critiques disent que Lucinda Riley, est l'une des meilleures conteuses au monde. Un grand livre qui fait 586 pages, qui coûte 23,90 €, avec de nombreux mystères qui vont peu à peu se mettre au jour. Cette romancière imagine une héroïne, Sorcha O'Donovan, c'est le nom de l'héroïne, qui n'a jamais connu d'autre horizon que Ballymore, petit village battu par les vents de la côte ouest de l'Irlande, qui se situe vers le Cork occidental, voilà, en bas de l'Irlande, le Cork occidental, lorsqu'elle tombe éperdument amoureuse de Conor Daly, un musicien marginal et séduisant qui vit dans une cabane sur la plage. Elle décide d'écouter son cœur contre l'avis de son père, le notaire O'Donovan, à la poursuite de son rêve de gloire. Et de tout quitter, Sorcha va tout quitter pour le suivre, pour suivre Conor Daly à Dublin, puis surtout pour aller en Angleterre, à Londres. La poursuite de son rêve de gloire. Il écrit des chansons jouées à la guitare, comme la femme de ma vie, avec une mélodie magnifique. Donc, elle est citée, cette première chanson, La femme de ma vie. Voilà. À Ballymore, il y avait aussi Helen McCarthy, qui, voilà, c'est l'autre personnage féminin important de ces romans. Elles étaient à la même école, mais elles sont rivales, parce que l'une est brillante, éclatante même, d'une bonne famille. L'autre se sent plutôt dépressive. Alors, elle a un cheval, elle monte, elle fait de l'équitation. Davy monta sur son cheval, parti en direction de la plage, où elle apercevait Connor Daly. Alors, elle aussi est amoureuse de Connor Daly, mais elle se sentait maladroite, alors que Sorcha était ravissante, brillante, populaire. Hélène est rejetée, criant de la jalousie, et elle va jouer un certain rôle dans ce scandale, parce que Rosa, Sorcha, rejetée par son père, et partant pour Londres avec Connor Daly, ça va former un scandale. Mais elle aussi va partir pour Londres, avec la puissance de l'argent, parce que ses parents sont morts, et bien placée par O'Donovan, le notaire, donc elle a de l'argent. Donc elle veut aller à Londres, elle aussi, pour connaître une aventure là-bas. Donc elle va connaître une aventure qui va l'aider, parce qu'elle avait des complexes, l'aider à surmonter ses complexes, sa dysplasie, sont difficiles, voilà. Alors, les premiers temps à Londres, pour aussi bien les uns que les autres, sont difficiles à Londres. Connor finit par rencontrer le succès avec son nouveau groupe, The Fishermen, un groupe de 4 chanteurs et musiciens. Il y a Todd, Derek, Connor et Yann, mais chacun ayant son caractère et son mystère, ce qui va compliquer les choses. Donc, à découvrir. Alors qu'un avenir radieux semble à nouveau permis, le jeune couple est vite rattrapé par le tourbillon de la célébrité. Il y aura, avec Hélène, un partenaire, une mort inexpliquée par la police, et puis aussi des menaces de mort sur les musiciens et sur Connor en particulier. Alors la police est alertée, donc il y a du tournant tour, hanté par des secrets enfouis qui pourraient mettre en péril leur fragile équilibre. Connor et Sorcha devront affronter leur plus grand défi, qui est de rester fidèles à eux-mêmes ou risquer de perdre ce qu'ils ont de plus cher, leur amour. On parle encore de leur amour. Et avec Hélène, qui veille au grain, donc vous découvrirez beaucoup de choses dans ce nouveau roman inédit. On va donc des landes sauvages irlandaises aux soirées glamour du swinging londonien. Lucinda Riley nous offre une histoire inoubliable d'un amour perdu, avec cette belle dernière chanson d'amour, qui est le titre de ce grand livre, de ce grand roman, mais aussi qui est une dernière chanson d'amour qui a été écrite par Connor Daly. Voilà. Donc je vous laisse avec ces six livres, voilà, à lire. Avec des différences, bien sûr. Donc, La femme qui inventa l'amour de Alexandre Jardin, 12 ans après de Lisa Garner, Albin Michel, Sans âme ni conscience, Michael Connelly, Seul des rivières, Patrice Guin, Trois Mexiques de Leclésio et La dernière chanson d'amour de Lucinda Riley aux éditions Charleston, un roman inédit qui n'était pas paru jusqu'à ce jour. En français. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.